Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 17-18 avec Maureen Wanzi-Wilaï et Larissa Ngono, les titres de l'actualité.
The National Assembly is to convene in ordinary session on Tuesday, November the 12th, 2024 at 11 a.m. This is contained in a bureau order issued by the President of the National Assembly, the Right Honorable Kavayege Jubril.
Année législative 2024, l'Assemblée nationale convoquée en session ordinaire le 12 novembre prochain. C'est la substance d'un arrêté du bureau de l'auguste institution signée de son président, Kavayege Jubril.
The National Anti-Corruption Commission has raised concerns over the upsurge of fake certificates in the country. It has promised to step up its campaign against the emerging trend that is threatening the credibility of Cameroon's educational system.
Faux diplôme, la CONAC en ordre de bataille dans les campus. La Commission nationale anticorruption invite la communauté universitaire à un surcroît de dénonciations. C'est une feuille de route dont s'imprègnent les étudiants, cœur de cible d'une campagne lancée à l'université de Yaoundé 1 ce mercredi. Voilà pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être toujours plus nombreux à l'écoute du 17-18. Nous recevons en ouverture de cette session d'information le directeur des rédactions radio de la CRTV, Valérie Dikosou-Marou. Bon après-midi, Valérie.
Bon après-midi, Larissa.
Nous recevons tout aussi bien le directeur adjoint, George Colomb. Good afternoon, George.
Good afternoon, Larissa.
Valérie, vous avez des textes du président de la République.
Décret numéro 2024/437 du 23 octobre 2024 portant nomination d'un responsable dans les services extérieurs du ministère des Relations extérieures. Le président de la République décrète article 1er est à compter de la date de signature du présent décret nommé au poste ci-après dans les services extérieurs du ministère des Relations extérieures. Ambassade du Cameroun en France, premier secrétaire, Madame Melokol, Georgette Nathalie, épouse Evinando, administrateur du travail, précédemment directrice de l'école pratique d'agriculture de Bingela, poste créé. Article 2, l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 23 octobre 2024, signé le président de la République, Paul Biya.
Decree number 2024/437 of the 23rd of October 2024 to appoint an official in the external services of the Ministry of External Relations. The President of the Republic hereby decrees as follows. Article 1. The undermentioned person is with effect from the date of signature of this decree appointed to the following position in the external services of the Ministry of External Relations. Embassy of Cameroon in Paris, France. First Secretary, Mrs. Evinando, ne Melokol Georgette Nathalie. Labor and Social Insurance Administrator, previously Director of the Bingela Practicing School of Agriculture, new appointment. Article 2. The appointee shall be entitled to the various benefits provided for by the regulations in force. Article 3. This decree shall be registered, published according to the procedure of urgency, and inserted in the official gazette in English and French. Yaoundé, the 23rd of October 2024. Signed, Paul Biya, President of the Republic.
Décret numéro 2024/438 du 23 octobre 2024 portant intégration et reclassement de 50 anciens élèves commissaires de police issus du concours spécial dans le cadre des commissaires de police. Le président de la République décrète article 1er En application des dispositions des articles 7, 8 et 71 du décret numéro 2012-539 du 19 novembre 2012 susvisé, les anciens élèves commissaires de police de l'École nationale supérieure de police y après désignés, issus du concours spécial 2021, titulaires du diplôme de commissaire de police délivré par la dite école, sont à compter du 11 juillet 2024 intégrés et reclassés au grade de commissaire de police de la manière suivante. Commissaire de police 3e échelon, indice 630. Kouyabé Élysée, Agbor George Haré, Waskiran, né le 7 avril 1975 à Yagua, Mboufang Tiegnou Thierry Modeste. Commissaire de police 2e échelon, indice 580. Gamalaï Félix, Essamé Joseph Désiré, Goufa Nangon Alain Roland, Gay Simon, Isayaku Bounou, Mbemnoun Aruna, Okodombe Marie Doel, Owona Elundu Tade, Mbombo Yakuba. Commissaire de police 1er échelon, indice 530. Adamou, né le 8 novembre 1968 à Poli, Zogonang Eric, Mbafoul Henry Nupuku, Tafong Eric Jean, Tashi Kelvin Nwenui, Kenui, Eyunga Eyum Carrington, Janvier Mohamed Koibour, Nkake Mboka Richard, Ondo Abosolo Craig, Sango Lem Yannick, Tatong Chinda Lionel Brice, Tindo Élisée, Wapo Francis, Ada Lambert, Mbou Haré Peter, Minsili Mbou Marie Ghislaine, Koum Tomatem, Abosolo Eyete Cynthia Valdez, Zolo Ela Jafet, Ovan Alexis, Sidonine Ediage Ngoum, Kwosi Jonas, Ndoum Patrick Siméon, Tikoum Honoré Mbanwey, Manloum Nami Thierry, Abosolo Atangna Parfait, Abeng Eric Michael, Olo Sopo Adolphe Désiré, Kwoto Yaye, Lovodo Bessala Bertrand, Mundo Ngolo Élisée Yannick, Mondombe Temwa Alexis, Ngono Odette Michel, Nga Mbia Cyril, Aboukare Kachala, Mbome Yannick Romuald, Mbonjo Émile Zola. Article 2. La dépense résultant des présentes dispositions sera imputée sur le budget de l'État, année 57, exercice 2024, chapitre 12, article 390 000, paragraphe 6221. Article 3, le ministre des Finances et le délégué général à la Sûreté nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application des dispositions du présent décret qui sera enregistré puis inséré au journal officiel en français et en anglais, Yaoundé, le 23 octobre 2024, signé le président de la République, Paul Biya. Décret numéro 2024-439 du 23 octobre 2024 portant intégration de 47 anciens élèves commissaires de police issus du concours direct dans le cadre des commissaires de police. Le président de la République décrète article 1er en application des dispositions des articles 7 et 156 alinéa 3 du décret numéro 2012-539 du 19 novembre 2012 susvisé les anciens élèves commissaires de police de l'École nationale supérieure de police y après désignés, issus du concours direct 2021, titulaires du diplôme de commissaire de police délivré par la dite école, sont à compter du 11 juillet 2024 intégrés dans le cadre des commissaires de police au grade de commissaire de police premier échelon, indice 530. Il s'agit de Abdoulaye Madi, Ali Abbas Demba, Ali Madé, Anang Jires Foum, Andeme Allo, Agnès Lionel, Asta Ouraïsa Nina, Babé Yaka Rodrigue Lionel, Bapes Owono Louis Loïc Arthur, Baya François William, Boulga Mathieu, Ejo Jomo Henri Bertrand, Ejo Vondo Verlaine Vanessa, Eyong Tano Angwassan Rémi, Fad Hassan, Fidel Mfoulou Nkolo, Foshivenjika Mamadou, Fono Rémi Steve, Foul Regan Chateau, Gaiwe Nyowe Jack Dinkreo, Golike Sadrak, Kekere Grégoire, Kenzo Boning Elona, Kinang Etienne Joseph, Mandeng Noël Bienvenue, Manga Paul Armel, Mbion Jules Merlin, Menge Atangana François Javier, Menze Mwatam Yolande Gaël Doudou, Mohamed Grichy Saliou Elwane,
Mwaso, Matambo, Fabiola, Léopoldine, Denha, Kadade, Kadage, Gaëtan, Ndi, Mbala, Thierry, Michael, Njang, Njang, Eric, Ngimbis, Nzati, Ngome, Mbi, Brian, Mayouk, Nsose, Frédéric, Gwey, Nzemenye, Sayep, Noël, Cassandra, Odindoum, Jocelyn, Dimitri, Okali, Changa, Jean-Paul, Ousmanou, Aruna, Owundi, Owundi, Bruno, Kevin, Siroma, Obele, André, Georges, Souleymanou, Bello, Tabé, Tabillon, Lionel, Chapmeni, Njega, Jordan, Loïc, Yaouba, Bouba, Youssoufa, Issa. Article 2. La dépense résultant des présentes dispositions sera imputée sur le budget de l'État, année 57, exercice 2024, chapitre 12, article 390 000, paragraphe 6221. Article 3. Le ministre des Finances et le délégué général à la Sûreté nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions du présent décret qui sera enregistré puis inséré au journal officiel en français et en anglais Yaoundé le 23 octobre 2024, signé le président de la République, Paul Biya. Décret numéro 2024-440 du 23 octobre 2024 portant inscription au tableau d'avancement de grade au choix de 3 commissaires de police principaux au grade de commissaire divisionnaire au titre de l'année 2024. Le président de la République décrète article 1er, en application des dispositions de l'article 73 du décret numéro 2012-539 du 19 novembre 2012, susvisé, les commissaires de police principaux dont les noms suivent sont inscrits au tableau d'avancement de grade au choix au grade de commissaire divisionnaire au titre de l'année 2024. Il s'agit de Mvogo Afana, épouse Nkoumde Mireille Jocelyne, Boyogeno Bende, Mbianda Noumen Yves Franklin. Article 2. Le ministre des Finances et le délégué général à la Sûreté nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 23 octobre 2024, signé le président de la République, Paul Biya. Décret numéro 2024-441 du 23 octobre 2024 portant avancement de grade au choix de 3 commissaires de police principaux au grade de commissaire divisionnaire au titre de l'année 2024. Le président de la République. Vu la Constitution, vu le décret numéro 74-559 du 26 octobre 1974 portant organisation du régime des pensions civiles et ses divers modificatifs, vu le décret numéro 75-459 du 26 juin 1975 déterminant le régime de rémunération des personnels civils et militaires et les textes modificatifs subséquents, vu le décret numéro 2001-66 du 12 mars 2001 fixant l'échelonnement indiciaire des cadres de la Sûreté nationale, modifié et complété par le décret numéro 2017-591 du 4 décembre 2017, vu le décret numéro 2011-412 du 9 décembre 2011 portant organisation de la présidence de la République, vu le décret numéro 2012-539 du 19 novembre 2012 portant statut spécial du corps des fonctionnaires de la Sûreté nationale, modifié et complété par le décret numéro 2017-592 du 4 décembre 2017, vu le décret numéro 2024-440 du 23 octobre 2024 portant inscription au tableau d'avancement de grade au choix de 3 commissaires divisionnaires de police principaux au grade de commissaire divisionnaire au titre de l'année 2024, vu les derniers actes d'avancement des intéressés, décrète. Article 1er. Les commissaires de police ci-après désignés inscrits au tableau d'avancement de grade au choix au grade de commissaire divisionnaire au titre de l'année 2024 par décret numéro 2024-440 du 23 octobre 2024 susvisé sont promus au grade de commissaire divisionnaire et reclassés de la manière suivante. Commissaire divisionnaire de deuxième échelon indice 1005. S'agissant des entreprises et des établissements publics à admettre en réhabilitation, la priorité devra être accordée à celle dont l'amélioration de l'outil de production permettra de rétablir l'équilibre financier et dont les activités concourent à la mise en œuvre des orientations de la SND 30 en relation avec le contrat de performance signé avec l'État. Aussi, pour celles ayant bénéficié des ressources de restructuration, des audits seront préalablement exigés avant toute nouvelle inscription budgétaire ou réadmission en réhabilitation. L'inscription des crédits en subventions d'investissement et des fonds de contrepartie en dépenses réelles doit être conditionnée par la présentation des éléments de maturité des opérations d'investissement à exécuter ainsi que par l'existence d'une convention de financement en cours de validité. L'inscription des projets d'investissement public à financement extérieur doit se faire dans le respect des principes de planification, de maturation et de programmation et de budgétisation. Les plans de décaissement des projets de convention sur financement extérieur devront être compatibles avec le cadre budgétaire à moyen terme disponible sur la période triennale concernée. Les dotations ministérielles communiquées à travers le CBMT devront prendre en compte les besoins effectifs découlant des plans de décaissement réalistes des projets FINEX afin d'assurer la maîtrise des charges budgétaires à moyen terme et la performance de l'investissement public. Les autorisations d'engagement pluriannuelles devront impérativement tenir compte de la soutenabilité budgétaire. En outre, le niveau d'une AE doit correspondre à la tranche fonctionnelle du projet concerné de façon à garantir son exploitation au terme de la consommation de l'AE. Adéquation entre les dépenses de fonctionnement et celles d'investissement devra être assurée dans les CDMT. À ce titre, les charges récurrentes engendrées par les dépenses en capital devront être évaluées, programmées et budgétisées. Les projets inscrits dans la première année des CDMT, dans des administrations et des institutions publiques, puis reversés dans le projet de loi de finances, devront au préalable figurer dans la banque des projets d'investissement public et disposer d'un visa de maturité. Les ministères et autres administrations publiques transmettront leurs dépenses d'investissement à financement C2D assorties de la chaîne des résultats prévisionnels au ministère en charge des investissements aux fins d'inscription dans le projet de loi de finances 2025. Les crédits irrelatifs devront être ventilés par programme, action, projet et tâches assortis des localisations géographiques. Les engagements de l'État dans le cadre des PPP au titre des loyers d'investissement devront rigoureusement être évalués et inscrits dans le budget de chaque ministère concerné. Quant aux dépenses de fonctionnement, la masse salariale devra être préparée de façon à assurer le paiement régulier des salaires et l'apurement progressif de la dette irrelative, y compris la prise en charge des recrutements planifiés. S'agissant des pensions, la provision dédiée devra tenir compte de l'incidence différée de la liquidation totale des droits des pensionnés dès la mise à la retraite. Les dépenses de fonctionnement des commissions ministérielles régionales et départementales de passation des marchés publics seront directement supportées par les budgets des entités où les dites commissions sont rattachées. Il en est de même des dépenses relatives au fonctionnement des commissions spéciales des contrats de partenariat public-privé ainsi que de la prise en charge des droits de régulation. Une priorité doit être accordée à la prise en compte du niveau réel des droits de régulation des marchés et des frais d'expertise dus au Conseil d'appui à la réalisation des contrats de partenariat CARPA par chaque administration dans la ventilation de l'enveloppe de fonctionnement. Les ministères et autres administrations publiques transmettront leurs dépenses de fonctionnement à financement C2D assorties de la chaîne des résultats prévisionnels au ministère en charge des Finances aux fins d'inscription dans le projet de loi de finances 2025. Les crédits irrelatifs devront être ventilés par programme, action, projet et tâches assorties de leur localisation géographique. Afin d'assurer un traitement rationnel des dépenses locatives des services publics, seuls les loyers courants seront inscrits au budget du ministère en charge des domaines et du ministère en charge de la Défense. L'apurement des arriérés fera l'objet d'un traitement séparé par les administrations compétentes. Les besoins liés au fonctionnement des commissions de constat et évaluation des expropriations pour cause d'utilité publique et le paiement des indemnisations devront faire l'objet d'une budgétisation par les administrations concernées par la dite opération. Les engagements de l'État dans le cadre des PPP au titre des loyers de fonctionnement devront être rigoureusement évalués et inscrits dans le budget de chaque ministère concerné. Les dépenses relatives aux frais de justice seront directement supportées par les budgets des administrations concernées, à savoir le ministère de la Justice et le ministère de la Défense. De plus, afin d'assurer leur traitement rationnel, celles-ci se feront conformément au plafonnement des crédits relatifs dans la limite des quotas prescrits de façon à assurer leur paiement régulier et leur régularisation progressive. En ce qui concerne la promotion du genre, l'intégration de la démarche de budgétisation sensible au genre devra être une priorité dans tous les secteurs de développement du développement national. Les administrations devront mettre en œuvre leurs engagements en matière de promotion de l'égalité pris dans le cadre de la stratégie nationale de développement et de la politique nationale genre et déclinée au niveau des cadres stratégiques de performance. L'ancrage au genre devra être reflété dans le budget des administrations sectorielles ainsi qu'au niveau des objectifs et des indicateurs retenus. L'ensemble des dépenses et mesures spécifiques programmées en faveur de l'égalité et l'équité entre les sexes doivent ressortir clairement dans les documents ministériels à présenter selon les formats prescrits par le ministre chargé des Finances et à examiner lors des différentes conférences budgétaires. Ces dépenses, programmes, actions, activités et tâches devront être identifiées et suivies par des marqueurs afin de servir d'éléments de plaidoyer pour l'allocation des ressources budgétaires. Les administrations devront conduire, sous la supervision de l'équipe d'accompagnement, INS, MINFI, MINEPAT et MINPROF, une analyse situationnelle genre sectorielle, analysant les enjeux genre dans le secteur, assortie de recommandations et identifiant les leviers budgétaires pour répondre efficacement aux besoins spécifiques et différenciés entre les femmes-filles et les hommes-garçons. Pour 2025, le document budgétaire sensible au genre continuera d'être produit. Par ailleurs, un document relatif à la budgétisation sensible au climat devra être produit et expérimenté à titre pilote en 2025 pour certaines administrations. S'agissant des ressources transférées au CTD, un effort sera fait pour la réduction des disparités dans l'affectation des ressources afin de favoriser un développement harmonieux et équilibré des territoires. À cet effet, les administrations devront programmer dans leur CDMT les ressources nécessaires au financement effectif de l'exercice des compétences transférées aux communes et aux régions en distinguant celles relevant des dépenses d'investissement de celles prévues pour les dépenses courantes et veiller au respect de l'équité dans leur ventilation. Les ministères sectoriels, en liaison avec les ministres en charge des investissements, des finances et de la décentralisation, devront conduire le suivi et évaluation de l'exercice des compétences transférées par la définition et la mise en œuvre d'un mécanisme efficace de remontée des informations. La visibilité des ressources transférées aux collectivités territoriales décentralisées devra être renforcée dans le cadre budgétaire à moyen terme CBMT afin de permettre leur programmation et budgétisation. Des conférences spécifiques seront conjointement organisées par les ministères en charge des finances, de l'investissement public et de la décentralisation en vue de l'examen de l'équité dans la répartition des ressources allouées par les administrations concernées au CTD. Les actions en vue d'harmoniser les critères de répartition des ressources au CTD devront se poursuivre. Dans le cadre de la budgétisation des crédits des chapitres communs 60, 65, 92, 93, 94 et 95, des efforts devront être poursuivis pour plafonner leur volume à 10% des dépenses totales du budget de l'État. À ce titre, les ressources initialement inscrites dans les 10 chapitres continueront à être affectées progressivement dans le budget des administrations concernées. En lien avec le plan national d'adaptation au changement climatique, les dépenses de l'État devront contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Pour ce faire, les administrations devront procéder à la présentation de leurs dépenses en fonction des 3 marqueurs que sont l'adaptation au changement climatique, l'atténuation des changements climatiques et la protection de la biodiversité. Au terme du processus de préparation du budget de l'État, tous les ordonnateurs devront veiller à la présentation pour toutes les dépenses inscrites dans le projet de loi de finances d'un plan prévisionnel d'engagement devant servir de base à l'élaboration du plan de trésorerie de l'État. Telles sont les grandes orientations qui doivent guider l'élaboration du projet de loi de finances pour l'exercice 2025 en vue de permettre à notre pays d'atteindre ses objectifs de croissance et de développement inclusif et durable. Le Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre des Finances et le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire doivent veiller, chacun en ce qu'il concerne, à l'application de ces orientations. J'attache le plus grand prix à l'application rigoureuse des présentes directives. Yaoundé, le 23 octobre 2024, signé le président de la République, Paul Biya.
Thank you very much, Valérie Dikosumaru and George Colomb.
Le 17-18, c'est 60 minutes de nouvelles et d'actu prospective sur les grands moments de la nation. Le focus du jour. Le sport, l'actu internationale. Le grand reportage, l'interview et l'invité du 17-18 pour vous informer en direct du poste national de la CRTV.
À 18h27, vous êtes sur le poste national. Dans la suite de l'actualité, nous mettons le cap sur Apia, aux îles Samoa, où vient d'arriver le premier ministre chef du gouvernement. Joseph Diongouté représente le chef de l'État, Paul Biya, au 27e sommet du Club des Gentlemen. Femmes, jeunesse, changement climatique, pauvreté, autant de thématiques essentielles au renforcement de la résilience des pays membres du Commonwealth à l'ordre du jour. Éléments de contexte et de perspective avec notre envoyé spécial à Apia aux îles Samoa, Laurentine Bocono.
Il est exactement 20h42 en heure locale, 8h42 au Cameroun. Lorsque l'avion est à son bord, le représentant personnel du chef de l'État camerounais, Paul Biya, a atterri à l'aéroport international d'Apia Falelo. Nous sommes aux îles Samoa en Océanie, hémisphère sud, GMT plus 12. Le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diongouté, a été accueilli par l'honorable Mulielola Agros, ministre samoan de la femme. En bonne place également, le haut commissaire du Cameroun en Grande-Bretagne, Albert Fotabon, car c'est également l'un des pays de sa zone de compétence. Le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures en charge du Commonwealth, Félix Mbayou, étant le team officer. Après les civilités d'usage, le premier ministre chef du gouvernement et sa suite ont été conduits à Return Paradise Hotel où ils ont déposé leurs valises. Malgré leur avancée de la soirée, le beau paysage environnant se laisse admirer. Il est bercé par le bruit des vagues battantes. C'est de là que repartira le représentant du chef de l'État pour rejoindre le Tumanto Conference Center qui abritera les travaux du 27e sommet des chefs d'État et de gouvernement des 56 pays membres du Club des Gentlemen. Au nom du président de la République du Cameroun, le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diongouté, sera concentré sur les points inscrits à l'agenda de cette réunion tant attendu. Le sommet offre également comme une nouvelle occasion pour discuter de l'héritage de l'Empire britannique, en particulier lorsque les dirigeants présents devront élire un nouveau secrétaire général censé venir du continent africain en remplacement de la très honorable Patricia Scotland en poste depuis 2016. Le sommet d'Apia aux îles Samoa offrira également une réelle opportunité pour réaffirmer les valeurs qui lient les États membres du Club des Gentlemen. Déjà présent ou annoncé ici à Apia, le roi Charles III, le monarque, espère donner un nouveau souffle à ce groupe, souvent présenté comme un vestige colonial britannique. Au total, quelques 5000 participants sont attendus à ce sommet. Apia, aux îles Samoa, Laurentine Bocono, envoyée spéciale CRTV.
The Prime Minister, Head of Government Joseph John Guti, has arrived in the island nation of Samoa, where he is scheduled to represent President Paul Biya at the Commonwealth Heads Government Meeting, Shogem 2024. Joseph John Guti landed in the Samoan capital Apia today and was received at the airport by the Samoan Minister of Women. Star Building correspondent Christian Chatham reports from Apia.
The Prime Minister's flight landed in the Falelo International Airport in Apia, capital of Samoa, at 8:45 p.m. local time on Wednesday, corresponding to 8:45 in the morning Cameroon time. The Minister Delegate in the Ministry of External Relations, in charge of relations with the Commonwealth, Felix Mbayu, and Cameroon's High Commissioner to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, His Excellency Albert Fotabong, received the Prime Minister upon his descent from the plane. The official reception took place at the entrance to the VIP terminal of the Falelo International Airport. The welcoming officer on the Samoan side was the Minister of Women, Muliola Ankrosa Alemulio. She exchanged words of welcome with the Prime Minister, saying all her country's delight over Cameroon's presence in Shogem 2024. The official delegation of Cameroon also includes the Minister Director of Cabinet at the PM's office, Balungeli Confiance Ebune, and senior aides of the head of government. Prime Minister Joseph Dion Guti is in Samoa to represent President Paul Biya at the 26th session of the Commonwealth Heads of Government meeting, which takes place on the 25th and 26th of October under the theme, Our Resilient Common Future, Transforming Our Commonwealth. Delegates from the 56 member countries of the Commonwealth are expected to take part in the deliberations. King Charles III, who arrived in Samoa Wednesday with his wife, Queen Camilla, will preside over the deliberations for the first time in his capacity as king. Shogem 2024 is the first to be organized on a small island state and brings the challenges of small states which are members of the Commonwealth under sharp focus. Before the PM's arrival in Samoa, delegates from the Cameroon Human Rights Commission, the Shippers Council, the Kribi Autonomous Port, and from other organizations have been taking part in different events. As the date for the heads of government meeting proper approaches, the excitement is rising in the small island country of Samoa, which is ready to show the Commonwealth just what hospitality made in the heart of the Pacific Ocean looks like. From Apia in Samoa, Christian Chiatam, Shogem 2024.
The Gynecological Endoscopic Surgery and Human Reproductive Hospital, CRASER, has registered its 502nd in vitro baby, attaining its objective of 500 babies. The new births, 3 baby girls and 1 boy from 4 different mothers and who all conceived through intro fertilization, were delivered this morning by successful cesarean sections performed by Professor Jean-Marie Kasia. Aimbile.
History was in the making as Professor Jean-Marie Kasia and his team of healthcare specialists performed C-sections on 4 different women. For the 9-year-old and first-time mother, Mama Mireille from Loom, was simply overwhelmed as she received her bundle of joy.
Je suis maman. Je suis maman. Grâce à cet hôpital. Merci Chantal Biya. Merci Chantal Biya.
For 39-year-old Nadine Flo Kandum, the delivery of her second IVF baby, a bouncing baby boy of 3.4 kilos, unfolded in the presence of her husband. A medical procedure also performed on Mama Foot, aged 36, to deliver her 2.8 kilogram bouncing baby girl, who came on the heels of another sweet and blooming baby girl, the 500th IVF baby at Grasser, born to 52-year-old Mama Chana.
She had a previous IVF baby here. She came the second time, and she's pregnant again. And that will be the 501.
With a pregnancy rate of 32%, Grasser is now embarking on another phase of its historic journey through fertility treatments that has enabled women from Cameroon and beyond to live the joy of motherhood as desired by Mrs. Chantal Biya, Cameroon's first lady.
Can you imagine if the first lady and his husband didn't permit us to do this? We couldn't do that. So, first of all, thanks to the President of the Republic, we do hope that the government will help, as the government did before, for IVF or endoscopic surgery. We do hope that we are going to succeed to implement gynecological cancerology.
Incredible strides and milestones celebrated with prayers and the popping of 5 champagne bottles with Professor Jean-Marie Cassia toasting to hope and new beginnings.
Je vous donne lecture de cet arrêté du bureau du Sénat portant convocation du Sénat en session ordinaire. Président du bureau du Sénat, arrête article 1er conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi numéro 2013-006 du 10 juin 2013 portant règlement intérieur du Sénat suvisé et ses modificatifs subséquents. Le Sénat est convoqué en sa 3e session ordinaire de l'année législative 2024, le mardi 12 novembre à 16h. Le présent arrêté du bureau sera enregistré, puis publié et communiqué en français et en anglais, partout où besoin sera. Fayaoundé, le 23 octobre 2024, pour le bureau du Sénat, signé le premier vice-président Aboubakari Abdoulaye.
Bureau order to convene the Senate in its ordinary session. The President of the Senate, President of the Senate Bureau, after consulting the President of the Republic, hereby orders as follows. Article 1, according to the provisions of Section 4 of Law of 10 June 2013 on the standing orders of the Senate above mentioned and its subsequent amended instruments, the Senate is convened in its third ordinary session for the 24th legislative year on Tuesday, 12 November 2024 at 4 p.m. Article 2, this bureau order shall be registered, then published in English and in French wherever need be. It is signed for the Senate Bureau, the Senior Vice President Aboubakari Abdoulaye.
Cet arrêté du bureau de l'Assemblée nationale portant convocation de l'Assemblée nationale en session ordinaire. Le président de l'Assemblée nationale, président du bureau de l'Assemblée nationale, arrête. Article 1er, l'Assemblée nationale est convoquée en session ordinaire le mardi 12 novembre 2024 à 11h précise. Article 2, le présent arrêté du bureau sera enregistré, puis publié en français et en anglais et communiqué partout où besoin sera. Fayaoundé le 23 octobre 2024 pour le bureau de l'Assemblée nationale, signé le président de l'Assemblée nationale, Kava Yegué Djibril.
Bureau order to convene the National Assembly in ordinary session. The President of the National Assembly, President of the Bureau of the National Assembly, having consulted the President of the Republic, hereby orders as follows. Article Section 1, the National Assembly shall convene in ordinary session on Tuesday, 12 November 2024 at 11 a.m. Section 2, this bureau order shall be registered, published in English and French, and communicated wherever need may be. Done in Yaoundé, the 23rd October 2024, for the Bureau of the National Assembly, the President of the National Assembly, Kava Yegué Djibril.
18h39, un bout de réclame avant de clôturer ce journal.
Payez vos impôts en quelques secondes avec Mobile Money. Vous avez rempli votre déclaration et vous ne savez toujours pas comment payer vos impôts. Avec Momo, payez vos impôts depuis votre téléphone en quelques secondes, en toute sécurité, où vous allez, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Composez étoile 126 dièse, tapez 2 puis 7 et payez vos impôts en toute sécurité. Il est également possible de payer vos frais de scolarité et d'examen en toute sécurité avec Momo. Composez étoile 126 étoile 007 dièse ou allez sur minesecp.cm. Entrez votre matricule, payez et recevez votre reçu instantanément.
Gain time. Pay tuition and examination fees in just few seconds and in a very safe way. Dial *126*007# or go to minesecp.cm. Enter your matricule. Pay and download your receipt. Momo is more. Everything is more with Momo.
La fin du 17-18 édition exceptionnellement longue. Principales informations à retenir. Le président de la République, Paul Biya, a signé plusieurs décrets ce 23 octobre portant nomination de responsables dans les services extérieurs du ministère des Relations extérieures, portant intégration et reclassement d'anciens élèves commissaires de police issus du concours spécial dans le cadre des commissaires de police et une circulaire relative à la préparation du budget de l'État pour l'exercice 2025. Et puis année législative 2024, l'Assemblée nationale et le Sénat convoqués en session ordinaire le 12 novembre 2024. C'est la substance de deux arrêtés des bureaux des deux chambres rendus publics ce mercredi.
And that's the end of the 5 to 6 p.m. presented by Maureen Wanziwile and Larissa Ngano under the supervision of the Editor-in-Chief, Florence Mukke. Thanks for listening and do stay tuned to programs on the CRTV.